Regard des hommes sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Et ce renouveau a été fabuleux.
Cela fait 50 ans que nous partageons tout cela. Et il nous reste tant à vivre ensemble. Et tout de suite, vous retrouvez les Midis de Culture.
Bonjour Julie, bonjour à tous pour ce premier jour de l'année au programme des Midis du cinéma avec la sortie de Nosferatu de Robert Eggers et du dernier film d'Andrea Arnold Bird. Puis à 13h, je recevrai le prodige du piano français Alexandre Kantorov pour son nouveau disque Bram Schubert. Vous écoutez France Culture et il est midi. Et c'est l'heure des titres de l'actualité de ce 1er janvier.
Bonjour Marie, jusqu'à quel point cette nouvelle année nous offre-t-elle des raisons d'espérer? Déjà la nuit dernière aura réveillé un cauchemar récurrent, un nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. 20 personnes au total, des hommes, des femmes, des enfants, sont portés disparus au large de l'île de Lampedusa. Cela faisait 13 années que la Roumanie et la Bulgarie attendaient leur tour. Intégrer Schengen depuis ce matin, c'est chose faite, ce qui signifie également que l'espace européen de libre circulation a désormais une frontière direct avec la Turquie. L'actualité en France, ce sont notamment ces dispositifs fiscaux qui risquaient de s'éteindre au 1er janvier que Bercy entend sauver coûte que coûte. On s'intéressera également aux chiffres des ventes de voitures neuves en baisse. Enfin, pour marquer cette nouvelle année 2025, toute la semaine, nous vous proposons de plonger dans nos institutions afin de mieux interroger les grandes transformations de ce premier quart de 21e siècle. Aujourd'hui, le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM. Mais en attendant, c'est donc les Midis de Culture.
...12h-13h30, les Midis de Culture. Marie Sorbier.
Bonjour et bienvenue dans les Midis de Culture. À 13h, je recevrai le pianiste Alexandre Kantorov pour son disque Bram Schubert. Mais d'abord, débutons l'année ensemble avec de bonnes habitudes. Chaque jour, les Midis de Culture commencent par un débat critique. Aujourd'hui, ce sont deux films qui retiennent notre attention. Nosferatu de Robert Eggers et Bird d'Andrea Arnold. Il sera donc question de terrifiants vampires et de jeunes filles coincées dans des milieux étouffants. Et peut-être aussi de cinéma. Et pour le savoir, j'accueille nos premiers critiques 2025, Lucille Como. Bonjour.
Bonjour Marie.
On écoute tous les matins votre regard culturel à 8h55 dans la matinale de France Culture. Et Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Marie, meilleurs vœux et surtout la santé.
On vous retrouve tous les samedis après-midi pour Plan Large sur France Culture. Bien sûr, bienvenue à tous les deux. Alors avant de nous lancer dans le programme du jour, un petit regard, un premier regard de cinéphile pour se donner envie de plonger dans cette nouvelle année. Est-ce qu'il y a un film ou plusieurs, que vous attendez particulièrement en 2025, Lucille?
Alors moi, j'ai beaucoup entendu parler d'un film que peut-être Antoine a déjà vu, qui s'appelle The Brutalist, qui est un film américain de Bradley Corbett, qu'on connaît pas, Brady Corbett d'ailleurs, qui sort en février et qui est un film de 3h30, si j'ai bien compris, avec entracte, ce qui est toujours assez intéressant, et qui est apparemment une énorme fresque. Ça raconte l'histoire d'un émigré hongrois, donc qui littéralement sort des camps de la mort, et qui émigre aux États-Unis. Et à partir de là, je crois que c'est une fable classique de self-made man à l'américaine, c'est avec Adrienne Brody, Guy Pearce, et je sais plus quel est le cast féminin, mais c'est aussi assez, assez brillant. Et apparemment, ce film est dingue. Il y a des critiques qui l'ont déjà vu deux fois en disant je suis retourné le voir. Voilà. Donc bon, j'attends de voir ça.
Donc février. Et vous, Antoine Guillot?
Alors moi, j'évite d'attendre parce que c'est la garantie d'être déçu. Mais oui, je peux vous recommander un film qui va sortir en février également, américain également, qui est le passage à la fiction d'un grand documentariste italien, mais qui vit aux États-Unis depuis des années. Il s'appelle Roberto Minervini. Il avait tourné notamment en Texas, en Louisiane, des films comme The Other Side et What You Gonna Do When the World's on Fire. Et là, il va faire un film sur la guerre de sécession, une patrouille perdue dans le Montana, sauf que pour le faire, il a continué sa pratique de documentariste, c'est-à-dire qu'il a pris des gens du cru, mais aussi des gens qu'on avait vus dans ses films précédents. Il va les mettre sur place, il va juste leur dire quelques mots, il leur dit juste, il va y avoir un avant, un pendant et un après la bataille, et maintenant débrouillez-vous et écrivez le film. Et ça donne un film tout à fait étonnant parce que ça parle à la fois de l'Amérique d'aujourd'hui, parce qu'il filme des corps d'aujourd'hui avec des comportements d'aujourd'hui qui se replongent un peu dans les origines de la, des tensions de ce pays qu'est la guerre de sécession. Et c'est totalement passionnant. Ça s'appelle Les Damnés. Quel beau titre.
Quel beau titre. Bon, bah des grandes fresques alors pour février. Vivement février. Allez, on commence ce débat critique avec Nosferatu. Une autre fresque hein, de Robert Eggers en salle depuis le 25 décembre. C'est une fable gothique qui raconte l'histoire d'une attraction terrifiante entre une jeune femme et un vampire. Le réalisateur à qui l'on doit The Witch en 2015 ou The Lighthouse en 2019 s'attaque au chef-d'œuvre de Murnau avec au générique Willem Dafoe et Lily Rose Depp notamment. En une phrase, Lucille Comeau, qu'en avez-vous pensé ?
Eh bien, j'ai été assez agréablement surprise par ce film. J'ai, comme on dit, passé un bon moment. Voilà.
Et vous, Antonio ?
Alors moi, je vais être dans l'allitération en P. J'ai trouvé ça pesant, prétentieux, poseur, pompeux, pompier et pénible. Et tout ça se prend les
pourri,
pieds
quoi, pour...
dans le linceul. Pourrissant.
Allez, on écoute un extrait, on développe après.
Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me.
Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver.
We are here encountering the vampire. Nosferatu.
Lucille, comment avez-vous eu peur pendant cette projection ?
Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, c'est pas Willem Dafoe et son accent un peu allemand sur texte anglais qui m'a fait particulièrement peur. Mais ceci dit, cet accent allemand, il veut dire quelque chose de l'aspiration de ce cinéaste qui est Robert Eggers, qui est vraiment de regarder vers le, disons, de prendre la montagne Nosferatu versant allemand. Donc, en regardant d'abord le film de Murnau, qui est en effet un film de 1922, vous l'avez dit, et il en reprend la fable originelle, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe exactement, enfin, c'est à peu près les mêmes ressorts narratifs, donc cette histoire...
Donc l'histoire est conservée telle qu'elle, on retrouve l'histoire de Nosferatu.
Oui, plus ou moins, donc c'est quand même... Oui, il y a ce clerc de notaire qui va vendre au comte Orlok, habitant dans les Carpates, un grand château complètement en ruine, un autre château en ruine, mais plus proche de la ville, Nosferatu voulant se rapprocher de la femme de ce clerc de notaire qui s'appelle Hélène et qui concentre, disons, toute la question du désir et de l'érotisme morbide de la fable de vampire. Donc oui, on retrouve à peu près cette histoire-là. Bon, disons que le personnage féminin est largement développé du côté contemporain de ce qu'on fait aujourd'hui aux jeunes femmes, c'est-à-dire que toute la question tourne autour d'elle, de son désir. Est-ce que le vampire n'est pas à l'intérieur d'elle et finalement le mal ne serait pas de son fait voilà, bon, c'est un peu ça la question. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans le film parce que je trouve que tous les passages qui tournent autour de ce personnage féminin et donc de Lily Rose Depp qui l'interprète sont le grand ratage du film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la première partie et donc la fable de ce personnage de Claire de Notaire qui va voyager et c'est très linéairement fait et c'est moi, je trouve plutôt bien fait, à la rencontre de ce comte Orlok, qu'on met du temps à découvrir physiquement. Il est interprété par Bill Sarsgaard, mais bon, on met bien une bonne heure à vraiment voir à quoi il ressemble, puisque, disons que Robert Eggers respecte ce mystère de l'apparence du vampire et qu'il n'écombre pendant assez longtemps. Moi, tous ces passages-là, entre ombre et lumière, c'est très classique. Ça, c'est très, c'est plein de tics qui sont empruntés à l'expressionnisme allemand. Je les trouve plutôt réussis et de fait, j'ai sursauté, de fait, j'ai eu peur. Alors que moi, les films horrifiques, vraiment, ça fonctionne quand même pas beaucoup. Il y a un truc de conte, en fait, et c'est un bon conte, voilà, disons.
Antoine Guillaume, dans votre allitération en P, je me souviens plus si vous avez dit peur ou pas.
Non, alors la peur, la peur n'était pas là. Enfin, si, ça m'a fait peur tellement c'est pas bien, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu rapide d'évacuer précisément cette dimension centrée sur le personnage d'Hélène, puisque c'est l'originalité du film et c'est le gros lourd message du film qui explicite comme jamais tout ce qu'il y a derrière les histoires de vampires, mais en se disant vraiment voilà, on va faire l'histoire d'une femme ou d'une jeune femme d'abord débordée par ses désirs, créant un monstre dans sa tête qu'elle appelle de ses vœux et qui va comment dire produire une désolation absolue sur la ville. Voilà. C'est très très lourdingue quand même. C'est filmé, c'est un peu la grande idée maintenant. Quand on est une jolie jeune fille, genre Emma Stone, il faut en faire des tonnes pour montrer à quel point on est une grande actrice. Donc là, on a des crises d'hystérie comme on en voyait chez Charcot et qui la déborde totalement. Là, on est quasiment dans l'exorciste de Friedkin. Enfin, c'est Linda Blair peut aller se rhabiller après ce que fait Lily Rose Depp, mais ça devient hyper lourdingue, c'est-à-dire c'est sans arrêt le sang des jeunes femmes qui appellent, c'est presque quelqu'un qui appelle quand même l'agresseur sexuel. Et à la fin du compte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? Elle l'a bien cherché. C'est quand même, sous prétexte de faire un grand récit post-MeToo, c'est quand même extrêmement réactionnaire comme film, tout en voulant le dénoncer. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des scènes de corset, on lui montre ce que c'est qu'être une bonne jeune fille, dès qu'elle exprime un peu un désir. Alors, il y a son mari complètement falot qui, au lieu de faire la nuit de noces, va essayer de chercher fortune dans une Transylvanie. Mais on se dit, comment est-ce qu'on peut encore représenter...
Mais justement...
Comme ça,
c'est
ce
drôle.
Monde. Alors, justement, la question, c'est est-ce que c'est drôle?
Est-ce que ça se veut drôle?
Est-ce que volontairement c'est volontairement drôle? Et le personnage de Willem Dafoe, tout d'un coup, m'a assez interloqué. Parce que, au départ, quand j'ai entendu dire qu'il y aurait un film un remake de Nosferatu avec Willem Dafoe, je me suis dit, formidable, il va jouer le vampire, il n'y a même pas besoin de maquillage, il va être parfait dans le rôle. Or, ce qu'il joue, c'est l'équivalent, puisqu'on sait que Nosferatu est un plagiat, pour éviter de payer les droits à l'époque du Dracula de Stoker, il va jouer l'équivalent du chasseur de vampire, le Van Helsing. Et alors, il y a des scènes totalement phénoménales où il est devant la cheminée, fumant sa pipe et disant « je le craignais, elle est possédée ». Et là, on se dit « mais on est chez Mel Brooks, en fait ». C'est-à-dire qu'il y a toutes les caricatures de ce genre de film dès le début, hein, quand on prononce « c'est le comte Orlok, la pluie se met à tomber ».
On l'entend bien dans la bande-annonce qu'on vient
d'entendre. Donc on se dit « mais est-ce qu'on est dans la parodie ?» Et non, puisque chez Egger, tout est extrêmement, et c'est là que je disais que c'était pompier et pompeux, c'est qu'il veut faire de la grande image monumentale, mais qui n'est qu'une récupération publicitaire des grandes inspirations expressionnistes. Je fais de l'expressionnisme, alors je vais vous mettre une ombre sur le mur. Vous n'avez pas compris, je vous en mets une deuxième, une troisième, jusqu'à cette main sur la ville qui reprend, on ne sait pas si c'est l'expressionnisme ou les pires caricatures antisémites montrant l'emprise de la juiverie mondiale sur le monde. Là, on se dit, mais en fait, il ne maîtrise pas du tout ce qu'il fait, quoi.
C'est-à-dire qu'à la fois, il maîtrise pas. Parce que ce que vous décrivez, je reviens sur ce que vous disiez de la fable féministe potentielle qui, en effet, se retourne complètement en quelque chose d'extrêmement réactionnaire. De toute façon, la représentation de Lily Rose Depp, c'est une représentation vraiment réactionnaire de la femme. Donc, c'est étonnant. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il a décidé d'adapter littéralement la fable vampirique. Et que dans la fable vampirique, bah oui, il y a sacrifice final de la femme. C'est le principe.
Oui, mais les fictions récentes avec des vampires, les vampires étaient représentés de façon plus... humain ou plus tendre. Est-ce que c'est le cas, là?
Mais non, justement, il n'y a pas de parodie. Il n'y a aucun second degré chez Robert Eggers. Il n'y en a pas. Et en même temps, c'est vrai qu'il a il y a presque quelque chose de l'ordre de l'autoparodie, puisque tout ce qu'il contient, tout ce qu'il fait dans ses autres films par ailleurs, de macabre ou de gothique, il les enferme dans des boîtes qui sont des boîtes, en effet, très publicitaires dans l'esthétique. Donc c'est du macabre Walt Disney, littéralement, tout le temps. Ceci étant dit, moi je trouve que, compte tenu de cette ambition de premier degré, ce film-là, par rapport aux autres que je déteste, hein, The Lighthouse, je trouve vraiment que c'est un des pires films qui ait été fait, probablement, je le trouve plutôt honnête dans sa linéarité, encore une fois, et dans le caractère, disons, divertissant du spectacle horrifique qu'il présente. Voilà.
Antoine Guillaume, Werner Herzog avait lui aussi proposé sa version de Nosferatu en 1979. Est-ce que Eggers s'inspire aussi de cette version-là?
Malheureusement, non. Parce qu'il y avait... la question de la mélancolie est celle qui porte effectivement tous ces films sur ces personnages féminins. Sauf que là, c'est vraiment la mélancolie chez Eggers au sens clinique, comme comme on appelait parfois l'hystérie féminine. Chez Kinski, il y avait une mélancolie générale, mais qui était à la fois portée par le personnage du vampire, qui avait conscience de ne plus être dans un monde qui, dans lequel il pouvait simplement faire quelque chose. Et la mélancolie d'une forme disparue, qui était précisément celle du cinéma allemand d'avant le nazisme. C'est aussi ce que racontait beaucoup le film de Kinski. Sauf que le personnage d'Adjani, pour le coup, était une vraie héroïne. C'est-à-dire que c'était pas tant le sacrifice que celle qui savait qu'elle avait quelque chose à faire, qu'elle était la seule à pouvoir résoudre la question du mal dans le monde. C'est quand même une portée métaphysique un peu plus élevée que le côté parc d'attraction. Moi, je suis d'accord sur le côté Disney. C'est-à-dire toute ce moment où on s'approche du château, on a l'impression d'être dans un train fantôme avec des plans de drone abominables et des sensations fortes, mais qui, alors là, pour le coup, moi, me laisse complètement froid, quoi. Plus froid que le cadavre du comte.
Mais esthétiquement, ça ressemble à quoi, ces images-là?
Alors, justement, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on voit comme Robert Eggers n'a pas vraiment d'idée, et son directeur de la photographie, qui le suit, je ne sais plus comment il s'appelle, depuis tous ses autres films, n'en a probablement pas vraiment non plus, parce qu'en fait, il fait feu de tout.
On va le dénoncer, il s'appelle Jerrine Blaschke.
Voilà, c'est ça, en plus, il a un nom imprononçable. Il y a un côté, c'est complètement incohérent. Alors, le film joue d'une partition et d'un montage alterné qui n'est pas idiot par ailleurs, qui est qu'il y a deux endroits. Il y a les Carpates où vit le comte. Donc là, c'est filmé comme une espèce de, en effet, mauvaise parodie, même si ce n'est pas fait exprès, de cinéma allemand. Et puis, il y a le lieu moderne, c'est-à-dire la ville qui représente potentiellement le progrès, mais dans lequel apparemment ça ne va pas si bien que ça, puisque c'est là où est enfermée la jeune fille qui attend Nosferatu. Et en fait, les deux ne sont pas du tout filmés pareil. Donc il y a plein d'effets, il y a des milliards de truc. Et de la même manière, le vampire, il n'est pas du tout filmé de la même façon, selon s'il est dans son village original, son château des Carpates, et quand il arrive finalement en ville. Bon, on ne va pas tout dévoiler peut-être, mais il y a quelque chose de complètement dichotomique et presque contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas montré pendant une heure, et c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que ça fonctionne. Même si c'est
vieille
Disney,
recette,
les ongles
gris
de
jouer
sur la tente et de la peur. On les aime, les vieilles recettes. Et dans un second temps, il est à l'inverse montré dans une crudité, disons horrifique, qui n'est plus du tout le même régime d'horreur et qui est pour le coup très sur la chair, où on est quasiment dans le film de zombies. Et ça va pas. Évidemment que ça va pas. Mais
vous avez passé un bon moment.
Voilà, je reste sur mon impression première, qui est une espèce de premier degré à embrasser comme tel de la narration, juste de la fable, qui fonctionne relativement bien, du moins dans une première partie.
Eh bien, chers auditeurs, allez donc vous faire une idée. Nosferatu de Robert Eggers est en...
C'est le Disney de Noël, hein. C'est le Disney de Noël.
Antoine Guillot, c'est à vous. Vous voulez nous parler d'un film qui sort aujourd'hui en salle et que vous nous recommandez?
Oui, eh ben on reste dans le registre fantastique contemporain, qui est celui de cette émission en général. Et c'est un film qui s'appelle La Source. C'est un film tunisien de Meriem Jouber. C'est un film qui résonne, d'ailleurs ce sont les mêmes producteurs avec Les Filles d'Olpha, que vous aviez peut-être vu, sur la responsabilité d'une mère dans le départ de ses filles pour le djihad. Alors là, c'est le contre-champ, c'est la responsabilité des pères dans le départ des fils pour le djihad. Donc on est dans un petit village côtier, village de pêcheurs dans les dunes, et un jour des fils partent. Sauf qu'il y en a un qui revient. Et il revient avec une femme qui est entièrement dissimulée sous son niqab, dont on ne voit que les yeux. Et à partir de son retour, il y a des disparitions mystérieuses qui commencent. Des hommes meurent, se jettent de falaises et on ne sait pas trop ce qui se passe. Je vous dirai pas la fin parce qu'elle est assez étonnante précisément. Mais tout d'un coup, on comprend que si des jeunes garçons partent, c'est peut-être pas tant par attrait pour Allah, pour le djihadisme et pour la révolution islamique, mais peut-être parce que les pères sont quand même totalement écrasants, fatigants, à exiger des choses de leur fils. Le tout est joué extraordinairement par des acteurs que moi je connaissais pas, mais qui ont une présence formidable, et filmé avec une façon, juste là encore, de ce qu'on ne montre pas, l'utilisation de la longue focale notamment, qui met tout l'univers dans un flou généralisé, qui est vraiment très très impressionnant. C'est une réalisatrice passionnante là qu'on découvre, qui s'appelle Meriem Jouber, et c'était en compétition au Festival de Berlin. Ne ratez pas La Source.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier,
Allez, nous quittons les vampires et les contes pour le réalisme social britannique et le nouveau film de la réalisatrice Andrea Arnold, présenté en sélection officielle en mai dernier à Cannes. Nous sommes dans une petite ville ouvrière du Kent. Bailey a 12 ans, elle vit avec son frère et son père qui s'apprête lui à épouser sa nouvelle compagne. Alors, elle n'est pas très convaincue par ce projet. L'adolescente vaque à sa solitude dans les rues et dans les prés jusqu'à ce qu'elle rencontre Bird, un garçon pas comme les autres.
Hey, Bailey! Let's go home.
What?
I've got a surprise for you at home. Let's go.
Dad, why are you in such a good mood?
It's a beautiful day. We've got big news. We're getting married, certainly.
It's another one of these crazy schemes that come to nothing.
So you what? She won't be telling me what to do.
What do you mean?
Oh, you gotta ask me when you do stuff like this.
You ask me about getting married?
Because I'm an adult. You're fucking 12.
So what?
Antoine, en quelques mots, en une phrase, qu'avez-vous pensé de ce film d'Andrea Arnold?
Eh bien, je dirais que Bird ne vole pas très haut.
Eh bien voilà, la punchline de 2025, Lucille à vous.
Non mais c'est pas un mauvais film, le problème en fait c'est qu'il arrive après beaucoup beaucoup de films qui ressemblent, donc ça commence à bien faire.
Alors Antoine, peut-être, suite à votre avis rapide, est-ce que vous pourriez nous replacer Bird dans la filmographie de la réalisatrice?
Andrea Arnold, c'est on pourrait dire c'est une petite chérie du festival de Cannes. C'est quelqu'un, chaque fois qu'elle présentait un film, elle repartait avec le prix du jury.
Je crois qu'elle en a eu.
Oui, elle en a eu trois. Elle a eu pour Fish Tank, pour American Honey et pour Red Road aussi, son premier. Donc c'est une cinéaste, vous l'avez dit, c'est le réalisme, le naturalisme social britannique, mais un peu pimpé par une énergie comme ça, qui est très poussée, une utilisation outrancière de la musique, on pourra en parler dans Bird, et surtout une utilisation de la couleur, toujours très saturée, et qu'elle va promener. Alors ça devient un peu un système, ça peut marcher en Angleterre, ça marche aussi aux États-Unis, puisque c'est comme ça qu'elle filmait ses personnages dans American Honey, et c'est en train de faire école. C'est-à-dire que c'est une grande influence, notamment sur des jeunes réalisatrices. Aujourd'hui, le Diamant Brut d'Agathe Ridinger, par exemple, doit beaucoup, de façon tout à fait explicite et revendiquée, à Andrea Arnold.
Mais est-ce que vous aviez aimé ses précédents films? Parce que là, vous l'avez quand même taillé dans le vif, celui-ci.
Eh bien, j'avais plutôt aimé les premiers. Red Road, qui n'était pas encore dans ce système-là, sur la surveillance généralisée par caméra de surveillance de la société britannique. Et puis par Fish Tank, parce que voilà, il y avait quelque chose d'un peu nouveau qui arrivait, avec déjà un personnage d'adolescente, un peu énervée, un peu en rupture de tout. Donc ça, au début, on se disait, voilà, ça commence à être intéressant. Et très très vite, en fait, Andrea Arnold est tombée dans son propre académisme, dans des recettes qu'elle répète, je dirais presque ad nauseam, et dans ce film-là, manifestement, elle se rend compte elle-même de ses propres limites, des limites de son système. Donc elle essaye d'apporter quelque chose de plus, qui est cette dimension fantastique et ce personnage Bird qu'on n'avait pas encore vu chez elle. Donc au départ, on aurait pu se dire, ah bah tiens, au moins elle se renouvelle. Est-ce que la greffe prend? Je n'en suis pas persuadée.
Mais justement, Lucille Como, est-ce que la greffe prend? On a l'impression, à vous écouter, qu'il y a un peu deux films en un qui s'inscrit quand même dans ce réalisme social dont on parle, et un autre plus poétique, voire fantastique, mais les deux ne cohabitent pas?
C'est toute la question en fait qu'on se pose pendant tout le film. Moi, mon impression première, c'était, je vais revoir Fish Tank, que j'avais aussi plutôt aimé, et c'est vrai que le scénario ressemble tellement, le personnage aussi. Dans Fish Tank, il y a aussi cet amour, cette proximité du personnage féminin, alors même qu'elle habite dans une banlieue londonienne, pour la nature et pour notamment les chevaux, donc pour les animaux. Là, on retrouve ça très fort dans Bird, évidemment, qui m'a d'abord fait craindre de revoir le même film. Or, en effet, comme elle a tellement fait école entre-temps, c'est compliqué de retrouver cette candeur éventuellement, ou en tout cas cette nouveauté que Fish Tank a apporté dans le cinéma britannique. Donc vous me demandiez si ça s'articule. Non, ça s'articule pas. C'est-à-dire que il y a ce réalisme social anglais très classique dans les motifs, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est très violent. C'est une jeune fille très jeune qui vit avec son père qui lui-même est très jeune, avec un frère qui organise des expéditions punitives pour essayer de punir les parents qui s'occupent pas bien de leurs enfants, ce qui est plutôt pas inintéressant, j'y reviendrai peut-être. Voilà, donc ça, c'est le côté frontal, c'est-à-dire la violence dans la société anglaise aujourd'hui, ce que ça produit, notamment auprès des enfants et des jeunes. Et puis, il y a filtre un peu poétique, filtre au sens qu'on peut utiliser dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en effet, elle filme des papillons. À l'écran, on voit les images que la jeune fille filme elle-même, car évidemment, elle filme elle-même avec son téléphone et elle projette ses propres petits films, un peu comme un journal intime visuel sur les murs de sa chambre. Elle habite dans un lieu, et c'est pas inintéressant ça au début, qui est très étrange, qui est une sorte de squat, mais ça ressemble aussi à un lieu un peu féerique parce qu'il y a des couleurs dans tous les sens, avec des enfants un peu perdus. Il y a un côté un peu compte aussi. Et puis, bam, on se prend la violence sociale de la rue, la violence physique, etc., la violence sexuelle dans la gueule, mais elle n'est pas traitée. En fait, le problème de ce filtre poétique, et c'est la même chose dans Diamant Brut, c'est la même chose dans tous les films qui ressemblent à Bourne, c'est qu'il sert de cache-misère, en vérité, que c'est une manière pour le naturalisme dans le cinéma de ne plus s'occuper vraiment de la violence. Et moi, pour moi, il y a un vrai refus de saut d'obstacle. Enfin, c'est-à-dire que il y a un moment où ça devient très très dur, très très grave. Ça se passe dans une maison qui n'est pas la maison de l'héroïne, mais la maison de sa mère qui vit avec un nouveau compagnon. Et c'est horrible, littéralement. Et c'est là que le fantastique intervient, précisément parce qu'on ne veut pas traiter la violence.
Le fantastique cache misère pour vous aussi, Antoine Guillaume ?
Oui, mais on est effectivement dans de la pure surface, c'est-à-dire que on a tout cet aspect, mais dès que ça devient un peu grave, on sait pas quoi en faire. C'est très surprenant. Moi, je trouve qu'il y aurait eu des perspectives assez intéressantes, notamment sur le fait que ce soit une filmeuse. C'est-à-dire que c'est le côté autoportrait d'André Arnold. Hein, elles le disent, hein, c'était son projet le plus personnel. On sait qu'elle a eu elle-même une enfance un peu compliquée dans le même genre de décor. Donc c'est quelqu'un qui filme, mais qui ne filme que de la petite image poétique.
Des oiseaux qu'elle projette.
Elle est passionnée par les oiseaux, donc elle filme des mouettes et elle projette ses mouettes sur son plafond. Et là où ça devenait plus intéressant, c'est comment le filmage devient une arme. Comment les images deviennent une arme. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'elle a quand elle voit quelqu'un arriver, c'est d'abord de le filmer, mais pas parce qu'elle a une pulsion scopique, c'est faire preuve. C'est-à-dire, si jamais tu m'agresses, j'aurai la preuve que tu m'as agressé. Si je vais chez mon beau-père, dans la nouvelle famille, je vais filmer pour avoir de la preuve et pouvoir le confronter. Donc ça aurait été une perspective intéressante sur comment, effectivement, aujourd'hui, l'image est devenue un outil de punition, de chantage, de preuves également judiciaires.
De protection,
c'est un changement majeur quand même dans la façon... Mais pareil, elle n'en fait rien.
Elle ne le traite pas, c'est-à-dire que le personnage filme et finalement, ce n'est pas théorisant.
Elle ne sait pas quoi en faire, c'est ça qui est assez déroutant. Moi, je prends vraiment comme l'a dit Lucille, cette irruption du fantastique comme une sorte de deus ex machina. Comment je vais m'en sortir ? Ah bah tiens, je vais mettre ça. Or, là encore, la fable aurait eu quelque chose de très puissant. C'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui est encore indéterminée dans son genre, dans sa façon de s'habiller. Si elle veut pas aller à ce mariage, c'est pas parce que ça l'ennuie que son père se marie, c'est qu'elle veut pas porter la robe grotesque, la tenue léopard violette qu'on lui impose. Donc elle veut rester dans cette enfance en fait. Et le personnage de Bird, c'est un Peter Pan par excellence. Sauf que là encore, elle n'en fait rien. Il y a une cruauté quand même dans la fable de James Barry sur le rôle de Peter Pan, qui est quand même celui qui tue les enfants qui veulent grandir. En gros, et là, on a un personnage simplet, complètement falot, inutile, qui régulièrement qu'on va filmer en haut d'un immeuble, comme ça, comme un oiseau. L'utilisation des oiseaux, non, mais le corbeau, pitié. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une métaphore aviaire générale, dont là encore,
il y a des crapauds aussi. Hein.
Oui, il y a des crapauds hallucinogènes.
Ça c'est plutôt
intéressant.
En fait, le personnage du père, qui est interprété par Barry Cogan, qui est par ailleurs un très bon acteur, et qui est un père enfant, il est très intéressant. Il y a plusieurs personnages secondaires qui sont beaucoup plus intéressants que la fable principale. Et dans ces personnages secondaires, paradoxalement, réside, je pense, quelque chose d'une sincérité qui est probablement liée à l'expérience personnelle de cette réalisatrice. En tout cas, d'honnêteté dans le regard qu'on ne retrouve pas à l'échelle du film.
Sans doute qu'il faudrait qu'André Arnold filme des hommes plutôt que des jeunes filles.
Oui,
maintenant.
C'est probable.
Bien voilà, le message est passé. Bird d'André Arnold sort aujourd'hui en salle. Vous retrouverez toutes les informations sur ces films et le podcast de cette émission, comme de toutes les précédentes, sur la page des Midi Culture et sur le site franceculture.fr.
écoutez France Culture.
Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture. Saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Aujourd'hui, le Book Club ouvre l'année par un récit d'hibernation.
Marie Richeux.
L'auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette livre le récit de ses hivers isolés dans un hameau reculé de l'Oisan. Entre mars 2020 et février 2023, l'auteur a affronté la solitude et les rigueurs de la montagne, routes coupées, avalanches et survie quotidienne face à une nature aussi sublime que menaçante. Il est notre invité.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est midi 30 et en 2025, vous êtes toujours bien sur France Culture. À 12h50, nous retrouverons le Point Culture mené cette semaine par Sophie-Catherine Gallet. Et à 13h, je recevrai le pianiste Alexandre Kantorov. Et c'est l'heure du journal de la rédaction.
Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à quel point cette nouvelle année nous offre-t-elle des raisons d'espérer? Déjà la nuit dernière aura réveillé un cauchemar récurrent, un nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. 20 personnes au total, des hommes, des femmes, des enfants sont portés disparus au large de l'île de Lampedusa. Cela faisait 13 années que la Roumanie et la Bulgarie attendaient leur tour, intégrer Schengen. Depuis ce matin, c'est chose faite. Ce qui signifie également que l'espace européen de libre circulation a désormais une nouvelle frontière directe avec la Turquie. L'actualité en France, ce sont notamment ces dispositifs fiscaux qui risquaient de s'éteindre au 1er janvier que Bercy entend sauver coûte que coûte. On s'intéressera également aux chiffres des ventes de voitures neuves en baisse. Enfin, pour marquer cette nouvelle année 2025, toute la semaine, nous vous proposons de plonger dans nos institutions afin de mieux interroger les grandes transformations de ce premier quart de 21e siècle. Aujourd'hui, le régulateur de l'audiovisuel, l'ARCOM. C'est généralement l'image de réveillon incontournable. L'opéra de Sydney au milieu d'une pluie spectaculaire de fusées lumineuses et après que l'Australie a donc la première ouvert cette nuit les feux d'artifice du passage à la nouvelle année, le monde convole depuis ce matin avec 2025. Alors on l'espère surtout pour le meilleur et forcément un peu moins pour le pire, même si en l'occurrence les défis s'annoncent déjà extrêmement nombreux. 2025 réussira-t-elle à stopper enfin cette litanie de record de chaleur, mais aussi de catastrophes naturelles aggravées justement par le réchauffement climatique? Que peut-on encore espérer des nouveaux bouleversements au Proche et Moyen-Orient? L'Ukraine va-t-elle devoir commémorer dans la douleur le mois prochain le 3e anniversaire du début de la guerre d'invasion impérialiste menée par l'armée du Kremlin? Quoi qu'il en soit, 2025 aura donc d'ores et déjà rouvert dès cette nuit les portes de l'un des plus grands cimetières à ciel ouvert sur la route migratoire aujourd'hui, la plus meurtrière au monde, la Méditerranée. 20 migrants, parmi lesquels 5 femmes et 3 enfants, sont toujours portés disparus ce matin au large de l'île de Lampedusa. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome. Le bateau parti de Libye a fait naufrage en pleine fête du Nouvel An et jusqu'à présent, Bruno, 7 personnes ont pu être secourues.
Et parmi les survivants, un enfant syrien de 7 ans. Il voyageait avec sa mère, porté disparu. Selon les premiers récits, c'est un autre proche qui l'a tenu hors de l'eau après le naufrage. La famille avait pour horizon l'Allemagne, où le père se trouve déjà. Le petit garçon a pu lui parler lors d'un appel vidéo. Les autres survivants viennent de Syrie aussi, mais encore de Soudan et d'Égypte. Après avoir passé la nuit dans le centre de la Croix-Rouge de Lampedusa, ils doivent être transférés dans la journée, dans un premier temps, à Porto Empedocle et en Sicile, où se trouve un centre de première assistance, identification, information sur les droits des migrants. En milieu de matinée, les autres naufragés restaient portés disparus malgré les recherches. 3 chiffres pour résumer la situation vue d'Italie au tournant de l'année. Près de 300 personnes ont débarqué à Lampedusa ces dernières heures. Selon l'ONU, 1700 personnes sont mortes ou portées disparues en Méditerranée centrale l'an dernier. Chiffre effrayant, mais moins élevé qu'en 2023. Du fait des mesures prises par le gouvernement italien, accord avec les pays de départ, notamment pour retenir les migrants. Les arrivées d'exilés sans papier ont baissé de près de 60% l'an dernier en Italie. D'autres routes se développent. 2024 a par exemple été une année record pour les arrivées de migrants aux îles Canaries, au large du Maroc et du Sahara occidental en Atlantique.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. De plus en plus ambitieuse sur la scène européenne, la Pologne a pris ce matin le relais de la Hongrie à la présidence tournante du Conseil de l'UE, un changement accueilli avec un soulagement certain à Bruxelles. Il faut dire que le cavalier seul mené lors des 6 derniers mois par Viktor Orban, chantre de la démocratie libérale et par ailleurs fossoyeur de l'état de droit dans son pays, en ont agacé plus d'un. Alors, grâce à cette présidence tournante, Varsovie devrait jouer cette fois-ci autrement plus collectif que Budapest pour tenter de faire avancer les nombreux dossiers encore sur la table, parmi lesquels la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi le pacte pour une industrie propre que la Commission doit présenter fin février, sans oublier le soutien à l'Ukraine dans le contexte pour le moins incertain de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump le 20 janvier prochain aux États-Unis. Après 13 longues années dans l'antichambre de Schengen, la Roumanie et la Bulgarie ont donc enfin été autorisées ce matin à accéder pleinement à l'espace de libre circulation sur route comme dans les airs, un symbole fort évidemment pour ces deux pays d'Europe orientale dont les dirigeants ont salué chacun à leur tour un moment historique, tout en rappelant qu'il s'agissait là d'un objectif clé depuis leur entrée dans l'UE en 2007. Alors avec cet élargissement, en particulier de la Roumanie, l'Europe découvre ce matin une nouvelle frontière directe entre son espace de libre circulation et la Turquie, ce qui nécessairement, Dominique André, va obliger à renforcer la sécurité.
Avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, l'espace Schengen, qui a été créé il y a 40 ans, comprend maintenant 25 des 27 pays membres de l'Union européenne, sans compter ses voisins européens comme la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. En tout, plus de 400 millions d'Européens peuvent donc circuler librement, sans subir de contrôle dans cet espace. En théorie, car face aux enjeux des vagues migratoires et des risques terroristes sur son sol, l'Europe a fait de sa sécurité une priorité. La frontière entre la Bulgarie et la Turquie, qui devient la frontière extérieure de l'espace Schengen, est renforcée. Une période initiale de 6 mois est prévue pour limiter le changement potentiel des routes migratoires ou faire face à des menaces de sécurité intérieure. C'est l'abandon du veto de l'Autriche qui s'inquiétait de la surveillance des frontières extérieures qui a permis cette adhésion définitive. Nous continuerons à agir de manière responsable pour protéger et renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, promet le président roumain. La libre circulation aura des effets positifs pour l'économie de ces pays, parmi les plus pauvres de l'Union européenne.
À peine plus de 10 minutes, tout juste le temps de tourner enfin la page de 2024 et surtout de se tourner entièrement vers 2025. Jamais depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, la traditionnelle allocution de la Saint-Sylvestre n'avait été aussi courte, et pour cause, puisque le président n'a plus aujourd'hui les moyens de tout décider comme il en avait l'habitude jusqu'à présent. Alors pour ses vœux, le chef de l'État n'a pas manqué tout d'abord de rappeler, il n'était pas très nombreux, les quelques moments de grande fierté nationale de cette année écoulée. Et puis, dans une forme plutôt rare de mea culpa, Emmanuel Macron a aussi fait acte de contrition en reconnaissant pour la première fois que sa décision de dissoudre seule l'Assemblée avait apporté davantage de division que de solution. Le président a également promis de faire trancher certains sujets déterminants aux Français, semblant ainsi ouvrir la porte à d'éventuels référendums ou conventions citoyennes. Une manière aussi, sans doute, pour le chef de l'État de brouiller la petite musique entêtante de certains de ses plus farouches opposants qui jugent inéluctable sa démission avant la fin de son mandat en 2027. Pour le reste, l'équation de cette nouvelle année reste donc invariablement la même. Le gouvernement menace toujours de tomber à chaque instant, tandis que les déficits publics, eux, continuent de se creuser et la dette de s'envoler. Or, c'est dans ce contexte que le gouvernement Bayrou a pris soin, dans les dernières heures de 2024, de prolonger toute une série de mesures fiscales qui allaient prendre fin au 1er janvier, faute de budget voté, ce qui, Camille Manière, donne d'ailleurs un premier aperçu des positions qu'il défendra très probablement dans les futures discussions budgétaires.
Longue liste de niches fiscales sauvées des eaux in extremis par Bercy, on distingue bien une priorité, celle de réaffirmer les engagements pris devant le monde agricole. Alors que la coordination rurale menace de bloquer Paris à partir de dimanche, le gouvernement Bayrou prolonge d'un trait de plume les crédits d'impôt sur les dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants, ceux pour les exploitations qui ont reçu le label haute qualité environnementale, les encouragements fiscaux pour les entreprises qui s'installent dans des zones de revitalisation revitalisation rurale. Les prix réduits sur le gazole non routier sont aussi confirmés au niveau pratiqué en 2023 et puis des aides maintenues aussi pour favoriser la transmission d'une exploitation à un jeune ou bien l'accroissement des cheptels bovins entre autres. Bien servi également les aides aux entreprises. Le gouvernement proroge les crédits d'impôt collection pour l'industrie du textile et de l'habillement particulièrement en difficulté ces derniers mois. Le crédit d'impôt innovation est aussi maintenu mais à un niveau ramené de 30 à 20% comme l'avait défendu feu le gouvernement Barnier. D'autres mesures enfin visent des dispositifs liés à la transition énergétique, écologique, au secteur immobilier aussi comme la prolongation de la réduction d'impôt loc-avantage pour les propriétaires. En tout cas avec ces textes de dernière minute, le gouvernement Bayrou dévoile des visées budgétaires qui sont très proches finalement de celles défendues par son éphémère prédécesseur. Il espère qu'un budget pourra être voté en février s'il n'est pas censuré d'ici là.
C'est l'un des nombreux effets secondaires de l'instabilité politique de ces derniers mois. L'autorisation de prescription du cannabis thérapeutique a pris fin hier. Ce faisant, faut-il y voir là l'épilogue de cette expérimentation qui dure depuis maintenant plus de 3 ans. C'est en tous les cas Grégoire Motz, que craignent désormais les associations de patients qui plaident toujours en faveur de sa légalisation.
Il n'y aura pas de légalisation du cannabis thérapeutique dans les prochains mois. La phase officielle d'expérimentation vient de se terminer le 31 décembre. Une décision dangereuse pour Mado Gilanton, présidente d'une association de malades.
C'est une énorme déception, un énorme gâchis. Les patients, on les condamne à quoi ? Il y a 3 solutions. Soit qu'ils vont en bas des tours chercher du cannabis qui n'est absolument pas de qualité pharmaceutique, soit à cultiver des plants chez eux et donc à se mettre dans l'illégalité, soit des menaces de tentatives de suicide. Des personnes qui disent qu'ils vont passer la frontière pour aller, pour les plus riches, sur un suicide assisté.
Tous les voyants étaient pourtant au vert pour légaliser le cannabis thérapeutique. En 2023, des engagements sont pris par l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Mais voilà, le flou politique des derniers mois empêche toute légalisation. Et si les autorités de santé décident de prolonger l'expérimentation pour 6 mois, c'est uniquement pour permettre aux 1200 patients traités de se sevrer. Incompréhensible pour les défenseurs de la légalisation, d'autant que les résultats sont probants pour Nicolas Autier, psychiatre et pharmacologue. Il préside le comité scientifique sur le cannabis thérapeutique de l'Agence de sécurité du médicament.
Et ce sont des résultats plutôt positifs, favorables, avec des patients qui sont soulagés pour 30 à 40% d'entre eux de manière significative, alors que ces patients-là, au préalable, étaient en situation d'impasse thérapeutique. C'est-à-dire qu'on avait tout essayé et rien ne soulageait leur souffrance, physique ou psychique.
Les défenseurs de la légalisation dénoncent une confusion des pouvoirs publics entre le cannabis thérapeutique et le cannabis récréatif. Ils espèrent convaincre le nouveau ministre de la Santé d'inscrire la légalisation dans le prochain projet de loi de finances de la Sécurité sociale.
Les ventes de voitures neuves en France sont restées à un niveau très faible en 2024. Les chiffres ont été publiés ce matin. C'est même 22% de moins par rapport à 2019, soit la dernière année avant la pandémie de Covid-19. Et là encore, c'est la situation politique instable depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron qui aura fortement freiné le marché de l'automobile. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors parmi les immatriculations de voitures neuves, les ventes de véhicules électriques notamment, qui connaissaient pourtant auparavant une ascension phénoménale, ont cette fois-ci reculé, Hakim.
Effectivement, les ventes ont baissé de 2,2%, et cela malgré le leasing social mis en place pour les voitures électriques, alors qu'elles avaient bondi de 47% en 2023. Quant à la part de marché de la voiture électrique, elle reste stable à 16,9%, ce qui est un grand problème malgré tout pour les constructeurs, car pour tenir les objectifs environnementaux fixés par l'Union européenne pour cette année, en matière d'émissions de CO2, ils devront vendre encore plus de voitures électriques. C'est ce qu'on appelle la norme CAFE. Des difficultés qui devraient encore durer dans les prochaines semaines, également avec la baisse du bonus écologique pour les voitures électriques qui va passer de 4 000 à 2 000 euros pour les ménages qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 26 000 euros par part fiscale. De plus, le prix reste un frein, lui aussi, d'autant que le marché manque de voitures électriques d'entrée de gamme autour des 20 000 euros pour y remédier. dédiée. Citroën compte donc sur sa nouvelle IC3 électrique et Renault sur sa R5. En attendant, la mauvaise santé du marché de l'électrique devrait encore avoir des conséquences sociales. En effet, dans ce contexte, de nouvelles suppressions de postes ne sont pas à exclure dans les usines, chez les constructeurs, mais aussi les équipementiers, comme on l'a vu récemment chez Michelin ou encore Valeo et Bosch. Enfin, si le marché de l'électrique se porte mal, Thomas, celui de l'hybride, lui, se porte très bien, avec des ventes qui ont atteint les 42,8%. Et cela, ça montre aussi que la part de marché, d'ailleurs, Thomas, des véhicules thermiques, eh bien, est passée en tête à 51% des ventes devant l'électrique, le diesel et l'essence.
Merci à Kim Kassmi. En cette nouvelle année 2025, comment mieux prendre la mesure du temps qui passe et de ses transformations toute la semaine? Nous vous proposons pour cela de plonger dans nos institutions aujourd'hui. Un quart de siècle à l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel. Éric Chavroux s'est entretenu avec celui qui termine en ce moment même son mandat à la tête de l'institution. Roch Olivier Maistre est l'invité de la rédaction.
Bonjour Roch Olivier Maistre.
Bonjour.
En 2000, l'histoire est déjà longue pour votre autorité de régulation. Peut-être certains l'ont déjà oublié, mais il s'agissait à l'époque du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Quelles étaient ses missions et ses enjeux?
Alors la régulation en France, elle a vu le jour en fait assez tardivement comparé à d'autres pays, parce que comme toujours dans notre pays, tout procède de l'État. Et on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais jusqu'aux années 80, c'est l'État qui contrôlait l'ensemble de la télévision et l'ensemble de la radio. Ça paraît un peu surréaliste, parce que 40 ans, c'est hier. Mais ce n'est qu'au début des années 80 que le paysage s'est ouvert et qu'on a mis en place une autorité de régulation pour organiser le paysage audiovisuel français, qui se libéralisait à l'époque. Le phénomène des radios libres, l'explosion de la bande FM et puis l'arrivée des premiers opérateurs privés de la télévision. Et à ce moment-là, donc, on a eu besoin, comme dans toutes les démocraties, d'avoir une autorité indépendante qui coupe le lien entre l'audiovisuel et l'État et qui organise le paysage. Et donc la mission historique de l'autorité, c'était de gérer les fréquences sur lesquelles émettent les éditeurs de télévision et les éditeurs de radio, délivrer les autorisations, de fixer les obligations pesant sur ces acteurs et de contrôler le respect de ces obligations. C'est pour ça que l'appellation de gendarme de l'audiovisuel s'est longtemps imposée. Et la loi de 86, qui est pour nous la colonne du temple, hein, c'est l'équivalent de la loi de 1881 pour la liberté de la presse, eh bien cette loi, elle a dû être modifiée presque une centaine de fois pour prendre en compte les transformations, les évolutions du paysage.
En 2000, par exemple, combien de personnes travaillent pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel?
Alors à l'époque, ça devait être dans les 200. Et aujourd'hui, donc l'autorité, dans sa nouvelle configuration, c'est 380 collaborateurs. Donc c'est une autorité qui a beaucoup grandi. Elle a changé d'appellation, elle a changé de gouvernance, elle a changé de périmètre. Et elle va même changer maintenant d'implantation géographique.
En 2003, par décret, vous devenez officiellement autorité administrative indépendante. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est très intéressant quand on lit les mémoires que vient de publier Michel Cotta, puisqu'elle a été la première présidente de la première autorité, donc qui a été créée en 82. On voit bien qu'encore à l'époque, le lien avec la classe politique est très fort. Et donc progressivement, c'est une autorité qui a construit son indépendance, affirmé son indépendance.
Alors, il y a quand même eu des mises en cause assez récurrentes, et y compris votre prédécesseur, Olivier Schramek, a reconnu qu'il y avait eu une suggestion du président François Hollande concernant la présidence de France Télévisions. Est-ce que ça a entaché tout de même votre fonctionnement?
Alors, il a témoigné de cela, effectivement, récemment dans une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Sur les 6 années, puisque j'arrive au terme de mon mandat, c'est une expérience que je n'ai pas connue. Sur aucune décision que cette autorité a été amenée à prendre, je n'ai connu une interférence de nature politique ou de nature économique. Donc je pense que cette autorité vraiment a conquis aujourd'hui son indépendance et que ce débat-là est derrière nous.
Pas de nature économique non plus, parce que, en particulier avec la naissance de l'ARCOM, vous êtes entré en contact régulier avec des acteurs de taille assez incroyable, comme Netflix ou des plateformes de ce type, aussi des acteurs comme Vincent Bolloré. Là non plus, économiquement parlant, vous n'avez jamais eu des frictions, des appels?
Non, c'est un champ, le champ audiovisuel, extrêmement régulé. Et dans les décisions que l'autorité a pu prendre récemment, certaines très fortes, vous voyez bien que l'autorité sait s'affranchir des puissances économiques. La régulation, elle ne peut pas être transactionnelle. Ce n'est pas une négociation avec des acteurs. Chacun est à sa place. Nous, notre feuille de route, c'est la loi. Toute la loi, rien que la loi. Et c'est ce qui nous guide. Rien que pour l'année dernière, j'ai été auditionné près de 35 fois au Parlement. Donc, en réalité, bien plus qu'un gendarme, maintenant, c'est une autorité de régulation moderne, reconnue et très respectée en Europe. Le nouvel horizon, c'est le numérique et c'est notamment tous les textes européens qui ont été adoptés. C'est d'abord l'entrée des plateformes de streaming dans le champ de la régulation et c'est surtout les réseaux sociaux avec ce grand règlement européen sur les services numériques qui est tout récent, qui rentre en application, dont la gouvernance est assurée par la Commission européenne, mais en liaison avec une autorité désignée par chaque pays de l'Union. Et l'ARCOM a été désigné comme coordinateur des services numériques pour la France. Et donc, on passe de plus en plus de temps dans cette régulation de niveau européen, qui est le bon niveau. Parce que pour dialoguer avec Meta, avec Google, avec X, avec TikTok, on voit bien que l'Union fait la force et que le fait d'être des autorités qui régulent un marché de plus de 400 millions d'habitants, ça a tout de suite un poids à l'égard de ces plateformes très important.
Merci Roch-Olivier Maistre. Je rappelle que vous présidez l'ARCOM jusqu'à l'arrivée prochaine, le 2 février, de Martin Hajdari.
Et merci à vous, Éric Chavroux. On vient de l'apprendre aux États-Unis, un véhicule a foncé la nuit dernière dans la foule à la Nouvelle-Orléans. Un premier bilan fait état d'au moins 10 morts et 30 blessés. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, couvert au nord d'une diagonale La Rochelle-Metz, ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. Et à 12h50 sur France Culture, la suite des midis, c'est avec Marie Sorbier.
Bonjour Sophie Catherine, bonne année.
Bonne année Marie.
Alors il est midi 50, c'est l'heure du point culture. Quelles sont les actualités culturelles en ce 1er janvier?
Eh bien ce soir sur France 2 sera inaugurée une toute nouvelle cérémonie, les Bravos d'or, qui récompense les contenus culturels ayant obtenu le plus d'auditeurs, de spectateurs ou encore de lecteurs. Mais les clics ou les chiffres de vente sont-ils un bon étalon pour récompenser les œuvres? C'est notre dossier du point culture du jour. Bonjour Chloé Delaporte.
Bonjour.
Vous êtes professeur en cinéma à l'université Paul-Valéry Montpellier. Vous étudiez notamment les processus de distinction et de valorisation des œuvres et des artistes au sein du champ cinématographique. Et vous êtes notamment l'auteur de La culture de la récompense. Alors donc là, dans cette émission qu'on va voir donc ce soir, il y a cette idée que le nombre d'entrées en salle, le nombre de clics, de ventes, démontre un succès incontestable. C'est le mot qui est employé. Mais alors de quel succès on parle quand on parle de ce type de succès-là?
Les gens qui défendent ce type de vote vont vous parler d'un succès populaire. Les gens qui critiquent ce type de vote vont vous parler d'un succès du marché et de l'économie de marché. Ça aussi, c'est assez ancien. Ce qui a commencé en fait à s'introduire ou à être mis en place comme système de vote qui ne soit pas un vote considéré comme élitiste, c'est-à-dire un vote par des collèges de professionnels comme au César ou comme on peut avoir aux Oscars aux États-Unis, ça a été les jurys populaires. Là, c'est différent puisque c'est censé être effectivement, ou en tout cas, c'est présenté comme objectif au sens où ça s'appuie sur des chiffres de vente. Ça, c'est un peu plus récent que les jurys populaires qui sont nés dans les années 70, mais c'est quand même assez ancien. Par exemple, les Trophées du film français, qui est un magazine spécialisé dans le cinéma et l'audiovisuel, qui remet des prix depuis le milieu des années 90, des prix qui sont quasiment tous indexés sur des chiffres de vente. Donc, c'est une manière, en fait, pour les organisateurs, organisatrices de prix, de, effectivement, comme le dit le communiqué de presse de la soirée, de l'émission de ce soir, d'objectiver, de rendre incontestable le succès, pour le coup, populaire ou du marché de ces œuvres-là. Donc effectivement, c'est incontestable que vont être récompensés ce soir les films, en tout cas le film, la série, le podcast, le téléfilm qui a généré le plus de vues. Après, est-ce que c'est le seul moyen ou le meilleur moyen de distinguer des œuvres ou des produits culturels, ça c'est une autre question.
Oui, parce que justement, il y a aussi, donc évidemment, c'est une manière de récompenser certaines œuvres, mais il y a aussi peut-être une forme d'invisibilisation d'autres œuvres qui n'ont peut-être pas eu les entrées en salle, effectivement, mais qui partaient avec un déficit, par exemple, de publicité ou qui n'ont pas pu trouver, en fait, justement, leur public. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi à ce niveau-là ?
Si, bien sûr. Après, je ne crois pas que ce soit le but d'une telle émission. L'émission n'a pas pour but de récompenser des films, des émissions de radio ou des disques. L'émission a pour but de faire de l'audience. Le meilleur moyen pour les producteurs et productrices, en l'occurrence producteurs de l'émission, de faire de l'audience ce soir, c'est de parler des œuvres qui ont touché un maximum de leurs téléspectateurs et téléspectatrices. Et comment s'en assurer ? En prenant les œuvres et les produits culturels qui ont généré le plus de vues, le plus de clics, le plus d'entrées en salle. Donc, ça peut poser un problème, si vous voulez, si on parle de la valeur artistique ou de ce qu'on considère être un bon film, une bonne émission, un bon disque. Mais du point de vue de la production d'une émission de télévision, ma foi, ils sont dans la génération d'audience et ça me semble être aussi un peu leur rôle, en tout cas, pas un objectif très très original, quoi.
On parlait aussi là, de succès populaire, et est-ce que finalement le nombre d'entrées veut dire succès populaire ? Est-ce que ça veut dire donc que c'est un succès effectivement populaire ? Ou il y a peut-être même confusion sur le mot populaire et sur ce qui se cache derrière ?
Alors, il y a une confusion sur le mot populaire, dans le sens où on a tendance à polariser comme ça les champs artistiques, comme s'il y avait d'un côté ce qui serait le succès des élites, de l'intelligentsia, le succès de la critique, d'un grand public éclairé, et de l'autre, le succès des masses. Bon, c'est bien sûr, cette polarisation, elle ne tient pas complètement, elle s'effondre assez vite, elle est assez classiste, elle est discutable en plein d'endroits, en termes économiques, esthétiques. Mais il y a aussi une incompréhension sur la notion de succès. Est-ce que vraiment faire 11 millions d'entrées, c'est un succès ? Est-ce que ça suffit à qualifier le succès ? Est-ce que, parce que 11 millions, je dis 11 millions de personnes parce que c'est le chiffre que j'ai en tête pour le film qui va être récompensé ce soir, mais est-ce que faire plus de 10 millions d'entrées, c'est nécessairement être un succès ? Pas forcément, ou alors il aurait fallu interroger l'intégralité des spectateurs et spectatrices à l'issue de la séance pour savoir si ils étaient satisfaits du film ou de l'émission ou du podcast ou du disque. Donc il y a une double incompréhension et sur succès et sur populaire, à mon sens.
Et quelle serait alors, selon vous, finalement, la meilleure manière de récompenser, de montrer quel a été le succès d'une œuvre ?
Si on me demande mon avis à titre très personnel, moi je suis pas persuadée qu'il faille récompenser. Je pense qu'à partir du moment où on crée une logique de concours, de compétition comme ça entre les artistes et les œuvres, ça aboutit inévitablement à une invisibilisation d'autres et vraisemblablement à une invisibilisation d'œuvres qui sont déjà assez peu visibles. Je pense qu'il faut faire confiance aux critiques, aux analystes, aux journalistes culturels pour aller mettre en visibilité ce qui mérite de l'être.
Alors, on en a un peu parlé déjà, mais il y a vraiment aussi cette spécificité donc de cet événement ce soir, de dire que le succès est incontestable, mais aussi de mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de jury, qu'il n'y a pas de vote. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de la transparence totale ou bien au contraire, ça cache quelque chose d'un peu étrange aussi ?
Oui, alors il y a une dynamique...
Pardon, je me rectifie, il n'y a pas de jury ou de vote, à l'exception d'une catégorie qui est réservée aux lecteurs du Parisien. Oui, voilà, oui, pardon.
Oui, c'est une dynamique classique, on va dire, dans tout ce que j'appelle un dispositif récompensatoire. C'est-à-dire que ça place la personne qui récompense dans une position de philanthrope. Donc forcément, ça invisibilise les intérêts qu'il ou elle a à remettre un prix. Donc j'ai envie de dire que tout prix, toute cérémonie cache quelque chose. Après, là, ça n'a rien d'incontestable. Il est incontestable que les produits qui vont être récompensés ce soir ou que les films ou les objets culturels qui vont être récompensés ont généré des entrées, généré des vues, généré des clics, etc. Est-ce que pour autant c'est du succès ? C'est ce qu'on disait plus tôt, ça me paraît très discutable. Et il y a quand même une catégorie qui était soumise au vote du public, alors pas du public de l'émission d'ailleurs, mais du lectorat du Parisien qui était en partenariat avec l'émission de ce soir. Et sur ça, j'ai de gros doutes sur le fait qu'on ait ce soir accès aux modalités de vote, aux chiffres précis, etc. Donc non, la transparence, elle est jamais complètement de mise. Ce discours explicitant ou promouvant l'idée que le vote serait incontestable, c'est pour obvier aux critiques qui sont classiques dans toutes les cérémonies. Prenons l'exemple des Césars, où on va critiquer les jurys et considérer que finalement, la récompense ne reflète pas l'avis du public ou l'avis de tout le monde, mais l'avis d'une petite caste, etc. Bon. Quand les Césars ont introduit le César du public, hein, qui était justement indexé sur les entrées en salle, en fait, ils se sont pris, pareil, une volée de critiques. Donc, c'est sans fin, j'ai envie de dire, entre les gens qui vont promouvoir des votes par des jurys ou par des collèges de professionnels ou par des critiques, et les gens qui vont plutôt promouvoir des votes populaires ou indexés sur le marché, on aura toujours des contempteurs des deux côtés. Je vous dis, je ne crois pas qu'il y ait de bonne solution à part à arrêter de mettre en compétition les œuvres et les artistes. Mmh.
Alors, peut-être aussi, on observe quand même que, donc, comme chaque fin d'année, il y a une différence entre les tops des critiques cinéma, je pense notamment à eux, et le box-office, et aussi l'avis plus répandu, on dira, dans la population. Et alors, je me demandais si finalement, cette cérémonie, alors certes, on reste dans quelque chose de l'ordre de la compétition, donc ça ne va pas exactement là où vous aimeriez aller dans l'absolu, mais est-ce que quand même, il n'y a pas une forme de complémentarité qui peut être accompli avec cette cérémonie qui existerait par exemple à côté de celle des Césars et que ça permet d'avoir un vrai panorama de la société française et de ses goûts finalement?
Oui, bien sûr, ça s'inscrit en complémentarité. Plus d'une certaine manière, à partir du moment où on dit qu'il y a des cérémonies et qu'on met les artistes et les œuvres en concurrence, bah, tant qu'à faire, autant que ce soit sur des modalités diverses. C'est-à-dire qu'on promeut la diversité culturelle des œuvres et des artistes, formidable, mais promouvons aussi la diversité des modalités de récompense. Donc, à ce titre-là, ou si on s'engage dans cette voie-là, effectivement, l'émission de ce soir, eh ben, elle apporte un regard complémentaire, le regard du public, des publics, du marché, mais qui, ma foi, est tout à fait aussi légitime que celui des critiques cinéma, qu'ils n'oblitèrent en rien. Les critiques cinéma sont lisibles, s'expriment, etc.